Radio Django. Vivre à Lausanne.
Ce soir dans Vivre à Lausanne, nous parlons de toxicodépendance et plus spécifiquement de ce qui est fait pour les gens qui consomment de manière active des produits psychotropes dans le cadre d'une association, voire même d'une fondation pour être précis. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Fabien. Oui, nous accueillons donc ce soir Nicolas Pitou. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, qui est l'actuel directeur d'une fondation dénommée ABS, accueil à Basseuil, fondée en 2003 à Lausanne. Alors pour vous le présenter, Nicolas Pitou a 58 ans, dont 37 années passées à travailler dans le domaine des addictions et est éducateur social de formation. Pour vous situer l'ABS, donc, dans le cadre plus vaste de la politique fédérale en matière de toxicodépendance, donc cette politique qui se targue de pouvoir limiter autant que faire se peut les atteintes physiques et psychiques pour les personnes toxicodépendantes, en phase de consommation active.
Et puis, Émilie, la politique fédérale en matière de toxicodépendance, là-dedans ?
Oui. Alors, il s'agit, bon, rapidement dit, de limiter les atteintes sur le plan bio-psychosocial. C'est un concept qui est comme ça à la mode dans le monde médical, afin d'éviter les éventuels clivages, donc vécus par les personnes toxicodépendantes. Ceci se fait dans un but principal qui est visé sur le long terme, disons-le tout de suite, c'est-à-dire améliorer les chances de ces gens de sortir un jour de la problématique de la dépendance dans laquelle ils sont pris. Alors, plus largement, c'est une politique en Suisse qui est dite des quatre piliers, qui a cours en matière de drogue et qui se veut pragmatique et orientée vers une efficacité certaine. Alors, il y a le pilier prévention, le pilier thérapie, le pilier réduction des risques, que Nicolas Pitou pourra nous détailler plus tard, et puis enfin le pilier répression et régulation du marché. Donc, ces quatre piliers visent à une réduction de la consommation de drogue illégale sur la scène suisse, mais aussi à contenir les effets néfastes de cette consommation, donc qui peut prendre des visages multiples à l'heure actuelle.
Effectivement, j'imagine. Et dans ce contexte, la Fondation a fort à faire et intervient par le biais de nombreux moyens, j'imagine.
Tout à fait. Alors, cette Fondation intervient de diverses manières et par divers biais que Nicolas Pitou développera très certainement. Donc, afin de réduire les risques et pour aider à mieux vivre, si je peux m'exprimer ainsi, donc auprès des populations confrontées de près ou de loin à des problèmes de consommation de produits toxiques et plus particulièrement les drogues illégales. Donc ainsi, et ça a son importance, une telle structure comme l'ABS permet de créer et d'entretenir des liens avec des personnes parfois extrêmement marginalisées qui n'iraient pas d'elles-mêmes au contact d'autrui chercher à se soigner si besoin. Donc il y a une véritable mission d'action publique sociale que livre l'ABS.
Alors, pour comprendre un petit peu mieux de quoi on parle, Émilie, tu t'es rendue sur place.
En effet, mardi passé, j'ai été accueillie par deux travailleurs sociaux dans le Distribus, qui est un bus qui est posté à la Riponne plusieurs heures par semaine et qui distribue du matériel d'injection stérile aux personnes toxicomanes.
Alors, on écoute un extrait pris dans ce Toxibus, c'est à la place de la Riponne la semaine dernière.
Est-ce que tu veux un petit sac ?
Si, toi, dans la boucle.
Qu'est-ce qu'il te faut avec ça ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il te faut avec ça ?
Todo, complet, sin filtre.
Donc je te mets 4 cupules.
Ouais.
4 asco. Ouais.
Encore
un peu plus d'asco, d'accord.
Bonsoir, alors je voudrais changer du matériel. Je ramène une orange, j'ai 30 ans. Ouais. Je voudrais prendre une orange.
Voilà, et avec ça, tu vois un cornet ?
Ouais, un petit cornet, une cupule, de l'eau. Ouais, c'est bon, désinfectant sec.
T'en penses ?
Oui, entier. Et c'est tout.
Tout le carreau, c'est bon, les veines, ça joue.
Ah, je veux bien de crème de Bepanthen, en fait, s'il vous plaît.
Donc là, Émilie, tu étais en compagnie de deux travailleurs sociaux, un personnage clé.
Tout à fait. Donc je remercie Laureline et Patrick, donc les deux travailleurs sociaux qui m'ont accueillie. Donc c'est vrai que les personnes qui y travaillent promeuvent que cette population puisse retrouver progressivement un véritable statut de sujet à part entière de la société, dont les choix, et notamment en termes de toxicomanie, sont à respecter, même si pas encouragés. Hein. Et puis, donc, On est aussi loin de toute infantilisation de la personne visée. C'est plutôt, si on peut dire ça comme ça, vers une émergence des potentialités, des ressources, des personnes qui est travaillée.
Alors ben, ce soir, je crois que la personne la mieux placée pour nous en parler, c'est vous, Nicolas Pitou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes travailleur social, comme l'a dit Émilie il y a quelques instants, et directeur de la Fondation ABS, la Fondation à Basseuil de Lausanne.
Oui. Alors...
Oui, on prend sa respiration.
Oui.
Première question.
Première question, pardon. Alors, Nicolas Pitou, est-ce que vous pouvez nous parler des principes et des valeurs qui régissent votre fondation ? Mais peut-être, en préalable, expliquez-nous un peu comment vous approchez ou comment les gens qui travaillent sur le terrain approchent le public que vous ciblez.
Alors, tout d'abord, nous avons deux espaces d'accueil, un qui s'appelle le Passage, qui existe depuis 1999. La Fondation ABS était précédemment une association, peut-être d'où la confusion parfois, par choix et par, je dirais, manque de membres. En 2003, l'association a légué son mandat à une fondation, c'est les mêmes personnes qui ont poursuivi leur mandat. Donc, peut-être quand même préciser que le concept de réduction des risques est né suite à l'apparition du sida, c'est important. Avant, moi qui vous l'avais présenté tout à l'heure, je travaille depuis 37 ans dans ce domaine. Les premiers centres d'accueil dits à Basseuil ont été ouverts dans les années 70 en Suisse. Et on était plus dans une perspective d'aide à la survie. Ces personnes, on allait d'abord à la rencontre dans la rue, on les retrouvait plus spécifiquement dans la rue, pour petit à petit les amener à fréquenter des structures d'accueil où on leur donnait, je dirais, les besoins minimaux. Et ça a été le début, je dirais, de la base posée pour la réduction des risques. Le sida arrivant en 84, le moyen de transmission était, le véhicule de transmission était le partage de seringues. Donc on a mis en place les premiers programmes d'échange de matériel pour diminuer ces risques de transmission. Il faut se rappeler que dans les années 84, les gens avaient une espérance de vie de 6 mois. Lorsqu'ils contractaient le virus, c'était...
Donc 6 mois et puis la personne décédait.
Et ils décédaient, ouais. Ce qui veut dire que ça a mis vraiment en ébullition les travailleurs sociaux que nous étions à l'époque. Et il nous a fallu trouver vraiment des solutions dans l'urgence, tout apprendre, tout découvrir. La recherche médicale, on était toujours attentif à ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Mais tout de suite, on a su que le moyen de transmission était le sang, hein, par contact de sang et forcément la seringue. Et là, on a pu commencer à travailler avec des pharmacies qui étaient pas toujours entièrement d'accord, mais de remettre du matériel d'injection stérile aux personnes toxicomanes.
Donc en effet, ça devait être, j'imagine, assez révolutionnaire à l'époque. Et je me dis, est-ce que vous avez rapidement constaté que ce genre de stratégie, le distribus, ça portait un effet sur la transmission du VIH, enfin la diminution ?
Alors effectivement, il y avait, je ne sais plus les chiffres de l'époque, mais il y avait un taux de contamination extrêmement important. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens s'injectaient encore avec des seringues en verre et se partageaient vraiment leur matériel. C'était rare de trouver des seringues. Donc on a vraiment mis en place cette stratégie pour diminuer. Et aujourd'hui, fort heureusement, si une des grandes victoires de la réduction des risques est d'avoir diminué le taux de transmission d'une manière drastique.
Alors qu'on comprenne bien, les seringues et tout le matériel pour l'injection est offert ou il est payant ?
Alors il est payant, nous vendons les seringues à 20 centimes pièce.
Oui, ce qui est abordable. Mais j'imagine que certaines personnes sont en manque d'argent drastique puisqu'on sait que les drogues sont chères. Est-ce qu'il y en a certains qui refusent ou qui n'ont pas les moyens de vous donner les 20 centimes ?
Pour nous, la priorité est de pouvoir donner le matériel. Les 20 centimes sont en soi symboliques. C'est aussi une manière de les responsabiliser. Les choses, malheureusement, ne sont pas gratuites. Mais je dirais que l'accent est d'abord mis sur la réduction des risques et sur la remise de matériel plutôt que sur l'argent.
C'est vrai que moi j'ai pu constater quand j'étais au Distribus que ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'il y avait une absence de dossier de suivi dans le cadre de la fondation, et je me suis demandé pourquoi, et je me suis dit mais finalement comment assurer une certaine continuité malgré tout c'est un début.
Alors la continuité ne nous appartient pas entièrement, nous intervenons dans le processus d'une personne que lors de sa phase active. Sur le principe, nous allons, lorsque la personne veut commencer à traiter sa toxicomanie, à soigner et éventuellement à se réhabiliter, il y a d'autres structures spécialisées, donc ça va être un passage par les structures thérapeutiques. Ici, on fait appel à Saint-Martin, hein, qui est un centre de substitution, mais également le Levant, les Oliviers, d'autres institutions qui, eux, vont enclencher un processus thérapeutique.
Si, admettons, demain, je viens chez vous, je peux dire que je m'appelle Martin, et le jour d'après, je peux m'appeler Xavier ?
On vous demandera de choisir un prénom et, si possible, de s'y tenir. Ceci, pour nous, à des fins statistiques, c'est clair que ça commencerait à tromper les statistiques.
Bien
si
sûr.
Les personnes changeaient tous les jours de prénom ou de surnom. Ouais. Donc, en principe, ils respectent la consigne. Mais il n'y a aucune vérification. Une personne qui se présente sous le prénom de Pierre s'appellera peut-être en réalité Jean. Donc, mais pour nous, il est peu important. Notre action, pour répondre un petit peu, ne s'inscrit pas dans la durée, mais dans l'ici et maintenant. Mmh. Et la consommation s'inscrit dans l'ici et maintenant. Donc on est vraiment dans cet instant-là, et de pouvoir orienter, conseiller et surtout remettre le matériel adéquat pour diminuer ces risques de transmission. Je rappelle qu'un traitement, ne serait-ce que pour l'hépatite C, coûte 80 000 francs par année. Donc pour chaque protection qui peut être donnée, c'est de sérieuses économies. Certes, ça, c'est un sujet qui est toujours très polémique de remettre du matériel de consommation à des consommateurs, mais derrière, il y a d'importants enjeux publics, de santé publique, et de coûts sociaux autour de notre action. Et s'il n'existait pas, je pense que les systèmes de santé coûteraient beaucoup plus cher.
Donc, vous parlez de la santé. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une unité sanitaire dans le cadre du passage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça fait référence ? Et puis, qu'est-ce que cette unité propose ? Est-ce qu'il y a des soins donc sur place, une possibilité de première amorce comme ça ?
Alors, c'est effectivement des soins de premier recours. La moitié de l'équipe de la Fondation ARBS est constituée d'infirmiers et l'autre moitié de travailleurs sociaux. Et on essaye d'avoir un regard complémentaire sur les problématiques. Forcément, la consommation de drogue va engendrer un certain nombre de problèmes somatiques. Et c'est pour ça que nous avons une équipe sanitaire qui est à disposition, mais nous faisons que des soins dans l'urgence. Et en principe, pour le suivi ou pour toute autre démarche, pour vraiment rentrer en traitement, nous allons l'orienter et nous avons développé un réseau de collaboration et entre autres avec la PMU.
Vous essayez d'entretenir une discussion avec les personnes qui viennent vous rencontrer, est-ce que pour les orienter peut-être justement vers la PMU ou dès la première visite, vous essayez de les orienter vers une détoxication ?
Du tout. Donc c'est même le principe de l'accueil à bas seuil, c'est de mettre aucune pression sur la personne pour un éventuel changement. Et la réduction des risques ne peut fonctionner que si la personne prend sa part de responsabilité. C'est elle qui consomme, c'est elle qui s'injecte. Donc si elle ne se responsabilise pas elle-même par rapport à sa santé, on pourrait donner du matériel, mais ça serait quasiment inutile. Donc on travaille vraiment sur cette responsabilisation individuelle et de forcément donner des informations objectives sur les conséquences éventuelles ou potentielles de cette consommation de drogue. Et ce qu'on oublie souvent, que le premier risque d'un consommateur de drogue, c'est d'abord un risque pénal. Et souvent, on doit le rappeler, donc nous ne sommes pas dans la banalisation de la consommation, qui est souvent un des reproches qu'on fait à la réduction des risques. Parce qu'on remet du matériel, on aurait tendance à banaliser cette consommation. Après avoir rencontré, je ne sais pas, 2, 3, 4 000 personnes toxicomanes, de banaliser cette problématique serait quand même le comble de l'ironie ou de l'irrespect. C'est des personnes en souffrance qu'il faut accompagner, qu'il faut écouter. Ouais. Et nous participons vraiment à les rendre citoyens, à avoir des interlocuteurs et à leur donner un certain nombre de conseils, mais aussi comportements. Parce que le deuxième risque est souvent de perdre conscience ou de ne pas avoir conscience des actes qu'on peut commettre sous l'effet des produits.
Et justement, ça nous permet aussi peut-être de faire la transition avec un sujet qui est assez chaud depuis quelques années. Qu'est-ce que vous penseriez de la construction d'un local d'injection comme il y en a par exemple à Genève, où on voit que ça fait ses preuves. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes en discussion avec les autorités ?
Alors, si vous avez vu l'actualité, donc la municipalité vient d'accepter un rapport préavis Donc le processus politique est encore long, mais qui propose l'ouverture d'un espace de consommation dans nos locaux, dans le quartier du Vallon, au passage, pour être précis, avec des mesures d'accompagnement et d'insertion sociale à travers l'offre de petits jobs à seuil adapté. Donc les personnes peuvent travailler en fonction de leurs possibilités et de leur potentiel. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui à la Fondation ABS, on offre également, pas seulement du matériel, mais des travaux, si possible, d'utilité publique. On a par exemple une équipe de ramassage de différents détritus, mais aussi des seringues usagées dans l'espace public. On a construit en collaboration avec la FASEL des roues népalaises, qui sont les ancêtres des grandes roues. Nous avons réhabilité un chemin et des jardins familiaux dans le cadre du Vallon pour les restituer aux habitants du quartier. Donc on essaye aussi, à travers nos actions, de redonner une image positive, d'abord pour la personne elle-même, de retrouver une utilité sociale, voire professionnelle, mais également de changer cette image de la personne toxicomane incapable de faire quoi que ce soit. Et je ne sais pas si j'en ai parlé, de notre deuxième centre d'accueil est la Terrasse, qui est un petit espace d'accueil où nous tolérons la consommation d'alcool, donc les gens peuvent apporter leur propre boisson alcoolisée, on les gère, on co-gère avec eux de manière à éviter à ce qu'il y ait des abus, plus ou moins bien, mais vraiment dans cette perspective de diminuer les risques qu'ils prennent par une alcoolisation massive, en plus souvent mélangée à d'autres substances. Et ce centre qui s'appelle la Terrasse a été entièrement construit par une septantaine d'usagers qui fréquentent nos infrastructures. Donc c'est certainement la réalisation la plus grande qu'on a fait, mais qui permet aussi de démontrer que lorsqu'on leur fait confiance et que malgré leurs problèmes de consommation qu'il a fallu gérer, parce qu'effectivement les gens ne peuvent pas se passer de consommer plusieurs heures de suite, on a intégré cette problématique et ils ont pu s'inscrire et la Terrasse a été construite en l'espace de 3 mois.
D'accord, donc bel exemple qui montre aussi que ces personnes qui souffrent de toxicodépendance peuvent aussi se réinsérer avec un certain étayage.
Absolument, et je crois que la valeur fondamentale est la confiance. C'est dû à d'abord une personne, certes avec une problématique spécifique, mais tu as des compétences, tu peux les faire, on va t'aider à les faire réémerger et à les réutiliser d'une manière positive.
Et d'ailleurs, je me demandais s'il y avait des projets en cours ou à venir au sein de votre fondation, la création d'une nouvelle structure.
Alors effectivement, donc, vu le mandat et le rapport préavis, c'est vrai que j'ai un peu digressé. Donc nous allons avoir ce mandat, pour autant qu'il passe toutes les étapes politiques. Il faut savoir que c'est la municipalité qui a accepté ce rapport préavis. Ça va être soumis au conseil communal, à une commission du conseil communal qui va auditionner un certain nombre d'experts, et après qui va renvoyer un message au conseil communal qui devrait en principe l'adopter dans cet automne, voire en début d'hiver, mais d'ici la fin de l'année. Et j'espère qu'on ne se retrouvera pas dans la même situation qu'en 2007, vu qu'un tel projet avait déjà été soumis au conseil communal, qu'il avait accepté. Il y a eu un référendum qui a été lancé contre, et malheureusement, devant le peuple, le projet a été refusé par le peuple.
On voit quand même 10 ans de travail, finalement.
10 ans de travail, effectivement. On voit que le refus, et surtout les arguments annoncés qui ont été développés à l'époque, il est toujours relativement simple de s'opposer à un projet. Par contre, de proposer des alternatives, ça devient plus compliqué. Et en 10 ans, les opposants à l'espace de consommation de l'époque n'ont fait aucune proposition constructive et réaliste. On peut essayer d'envoyer toutes ces personnes en thérapie, c'est une des propositions qui a été faite. On estime à 3 000 à 4 000 personnes qui s'injectent aujourd'hui de l'héroïne ou qui consomment de l'héroïne et de la cocaïne. Si on voulait les mettre dans les structures thérapeutiques, ces 4 000 personnes, il faudrait les agrandir et
ça créerait de l'emploi.
Effectivement, énorme. Et surtout que les thérapies, c'est un long chemin. On le voit, nous, dans le parcours des personnes qu'on accueille. C'est des personnes qui rechutent, qui peuvent revenir plusieurs fois chez nous, reprendre du matériel, reprendre la situation, se remotiver pour recommencer un processus thérapeutique. On le voit, je ne sais pas si vous êtes fumeur, mais pour les personnes fumeurs, c'est souvent un long chemin jusqu'à ce qu'ils puissent se dire « je suis abstinent d'une manière définitive ».
Et justement, il y aurait peut-être tout un travail avec la population de manière générale à faire pour les sensibiliser.
Alors, nous avons prévu, effectivement, nous avons organisé déjà une journée le 26 juin, donc dimanche passé, une journée qui était justement pour une modification de la politique, hein, qui demande que l'investissement qui est aujourd'hui mis dans l'appareil répressif, qui ne va pas, de toute façon pas diminuer, mais qu'une partie des ressources soit plutôt attribuée à la prévention, et je dirais à une approche sociale et médicale, plutôt qu'uniquement répressive, parce qu'elle n'a pas démontré sa pertinence.
Alors on rappelle que le toxibus est par définition itinérant, il se déplace, comment ça se passe? On le trouve à la Riponne actuellement?
Alors malheureusement, c'était bien l'idée de départ, d'avoir un projet d'un bus itinérant, ne serait-ce aussi parce qu'il y a d'autres quartiers lausannois concernés par une problématique de toxicomanie. Il y a quand même une périphérie lausannoise également. C'était l'idée que nous avions au départ. Malheureusement, pour l'instant, elle n'a pas réussi à se concrétiser. Donc nous n'avons qu'une place de stationnement qui est la place de la Riponne.
Bon, ben voilà, dans les projets, on peut ajouter ça par exemple.
Absolument.
Donc on vous trouve à la Riponne, comment ça se passe tous les jours?
Tous les jours, sauf le dimanche, de 17h à 21h. Et sinon, les infrastructures, le passage est ouvert tous les jours de 9h30 à 15h. Et la terrasse ouvre de 12h à 19h quotidiennement.
Voilà, tous les horaires sont donc donnés. Et puis on retiendra qu'il faut avant tout une question de confiance et un dialogue entre les personnes qui viennent vous consulter, les travailleurs sociaux.
Effectivement, et les voir d'abord comme des personnes. Je crois que ça, c'est essentiel pour changer sa manière de les appréhender et d'arrêter d'en avoir peur.
Merci beaucoup, Nicolas
Pitou.
Merci d'être venu nous parler de l'association que vous dirigez, la Fondation ABS. On vous souhaite plein succès pour la suite. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation directement, www.fondationabs.ch, ou bien les contacter directement par mail, abs@fondationabs.ch. On vous a mis tous les liens sur notre site. Merci beaucoup, Émilie, pour la préparation de ce sujet.
Merci.
Et merci à Radio Jamba de nous donner la parole. Il est très rare qu'on soit invité pour une discussion, une émission un peu plus de fond. En général, c'est des interviews très brefs. Et je vous remercie vraiment pour
On
avoir abordé ce sujet.
Vous donnez la parole, vous qui êtes aussi à Lausanne sur le même terrain de jeu, si je puis dire, que nous. Voilà, une émission et une chronique que vous pouvez réécouter en tout temps en podcast sur notre site www.django.fm.